France Culture.
Je peux tirer, je peux viser à droite ou à gauche.
Qui joue dans le même sens ou...
Donc, tu vas voir, on va jouer une fois, vous allez comprendre. Donc au départ, le démarrage, vous êtes tous de dos. Je crie samouraï, attendez, écoutez. Je crie samouraï, sud de Chine, go. Vous retournez, vous prenez la posture la plus absurde et débile que vous pouvez imaginer. Okay. Et celle qui me plaira le plus commencera le jeu.
Avec un cri.
Avec un cri. Ok. Y compris quand vous faites des mouvements, vous faites un cri.
On est de dos.
Vous êtes prêts? Samouraï, sud de Chine, go. Ok, Nawel, à toi.
Ha. Ho.
Je m'appelle Louise Marie et je suis élève en première année au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Avant de venir ici, je ne savais pas que faire rire, c'était une technique, enfin qu'il y avait des techniques. Je voyais des gens, je me disais « Ah bah eux, ils sont drôles, paf, moi, bah non ». Et voilà, c'était un peu un tri. Et en fait, il y a des stratagèmes, quoi, et c'est ça que je trouve hyper intéressant de travailler. Et à l'intérieur de ça, ce qui me fascine, c'est quand la subtilité... Enfin, c'est ça que je trouve incroyable, en fait, en clown. C'est les moments où il se passe presque rien. Et, par exemple, je sais pas, un petit doigt bouge, et là, c'est trop drôle. Enfin, le détail est et pile au bon moment, pile le bon geste. Bam, ça fait rire. Et ça me fascine. Et ça, je pense que c'est pas lié à l'intellect. Enfin, j'ai l'impression que c'est lié à l'instinct, enfin, au ventre, quoi.
L'art du rire... Ce sujet, il me fascine parce qu'il y a quand même quelque part là-dedans, d'un côté quelque chose qu'on maîtrise, une espèce d'artisanat, une espèce de technique. Il faut être un peu ingénieur pour construire un bon gag, un bon texte comique, un sketch. Et en même temps, dans le domaine de l'humour et du rire, on touche au paradoxe, aux contradictions. On touche aussi un peu au mystère, quoi, les choses qu'on ne comprend pas trop. Les choses qui sont un peu flippantes, ou bien dans la vie, ou bien dans la rue, ou bien à l'école, pour les enfants, ou bien dans le mystère de l'univers, on se protège un peu en racontant des blagues, je crois, c'est pas...
Faire rire sur scène, une série documentaire de Romain de Beguelière et Anne de Belchan. Épisode 3. T'as fait l'école du rire?
Les écoles de formation au niveau de l'humour sont très mal vues.
René-Marc Gage, fondateur de l'école de l'humour et des arts scéniques.
Par tout le monde. Mais ouais, on apprend à faire rire. Oh, il faut payer pour apprendre à faire rire, etc. Parce que on croit que parce qu'on fait rire les potes au café ou dans un mariage, ça suffit. Mais oh, il faut la tenir, la scène. Quand on voit les Gad Elmaleh et compagnie dans des zéniths devant 5000 personnes qui tiennent 1h45 sur scène, là, des écrans géants pour la plupart autour d'eux, c'est comme un sportif, c'est comme une star de rock, ça se travaille au niveau de l'énergie, au niveau de ce qu'on est soi-même, de gérer ses peurs, de... Et puis jouer seul avec un micro devant 5000, 6000 personnes, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui se passe pour un humoriste qui devient célèbre, ça se prépare, ça se travaille.
Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais écrit un texte sur la virilité. Et ce serait un petit
peu... On a une forme de sujet récurrent quand même dans cette équipe. Hein.
Ce serait un petit peu la suite de ce truc-là.
École de l'humour et des arts scéniques, cours de Philippe Davila.
Et donc là, il se fait enfin un rendez-vous avec une meuf.
Donc en gros, nouveau matos que j'ai jamais vu.
Voilà, c'est ça.
Soyons fous.
Trop cool. J'ai donc suivi les conseils de mes amis. Pour que ce soit peut-être plus rassurant, il faudrait que je sois dans un lieu dans lequel j'ai l'habitude d'être. Alors j'ai téléchargé une appli de rencontre, Doctolib, et j'ai pris un rendez-vous. Et là, le rendez-vous, c'est maintenant. Le prochain, c'est à moi. À moi. À moi. Ok, ça va le faire.
Il existait plein de cours de théâtre où on pouvait travailler le théâtre, des textes, etc., des personnages. des écoles de one man toutes récentes il y a encore 25 ans qui permettaient de construire son one man show, mais on construisait un ou deux sketchs dans l'année. Mais il n'existait pas de formation qui permette de construire son spectacle entier, écrit, selon le rêve que l'on avait à se connecter à son artiste, sans savoir trop où on allait, un accompagnement artistique qui permette d'accoucher d'un projet. Sur 2 ans en plus, c'est très court. Donc j'ai créé le HS il y a 9 ans dans ce but-là.
Ah mais c'est ça en fait, c'est les bad boys qui ont raison.
Le HS, École Humour Art Scénique, est une formation professionnelle continue sur 3 ans qui permet de construire le spectacle que l'on rêve de construire lorsque on arrive chez nous. Donc la première année, on construit 10 minutes de spectacle par trimestre. Et le but de la 3e année, c'est que le spectacle soit placé dans une petite salle et s'installe sur le circuit.
Il manque encore des pourquoi là-dedans. Hein.
Pourquoi lui, il fait ça?
Oui, enfin, il y a un truc un poil... Pourquoi Doctolib, déjà?
Parce que...
Au-delà du gag. Il y a longtemps, c'est sympa un gag, hein, mais voilà. Pourquoi lui va sur Doctolib? Est-ce que j'ai un hypochondriac depuis le début?
Non, parce qu'il essaie de suivre les conseils de ses collègues et du coup, enfin de ses amis, et du coup, elles lui disent, mais en fait, il prend les conseils de ses amis qui lui ont dit, mais en fait, fais un truc simple dans un endroit que tu connais, dans un endroit où ça va te rassurer, etc. Et lui, ce qu'il connaît, c'est l'hôpital, donc pof, il prend le conseil de la constellation. Parce qu'en fait, il applique les conseils, mais il les applique mal.
Et donc, ouais, du coup, donc c'est un truc de jeu, donc c'est la manière dont tu amènes Doctolib. C'est que Doctolib, tu nous l'amènes, tu joues les faits et tu joues pas le fond. Les faits de. Bon, je fais une appli de rencontre, mais en fait, c'est Doctolib. Mmh. Or, si, il faut que je comprenne que ce gars va sur Doctolib parce que c'est là qu'il est en confiance. Après, on sait, il est sage-femme, c'est tout ce qu'il connaît, c'est l'hôpital, c'est son milieu, donc ça, on a le personnage, on l'aura eu le personnage.
Ça, ce sera avant.
Vraiment, c'est intéressant. Si on fait un spectacle comique, dis, c'est énorme de faire ça, de dire, tiens, je vais faire un spectacle d'une heure. C'est long.
Joss Houben, comédien et pédagogue.
Il faut un thème fort. Comment faire pour que ça ne s'horizontalise pas? Après 20 minutes, on a compris, on va encore rire pour une demi-heure. Ça devient une espèce de catalogue, un buffet. Pour moi, c'est certainement, il y a toujours un moment où on dit, aïe, où est-ce qu'on va maintenant? Et si on continue, si on pousse là, on ouvre une grande porte.
Académie d'humour. Cours d'écriture d'Aude Galliou.
Si je vous dis étirer un sujet, quelle va être votre méthode pour le faire?
Moi j'aurais tendance dans un passage à regarder les sous-thématiques que je peux aborder et après essayer de les considérer comme des thèmes principaux et faire une sorte d'arborescence en fait. Donc
toi tu dis que tu vas plutôt dégager la problématique et après d'en déduire des sous-parties ou d'autres questions, c'est ça?
L'Académie d'humour, on l'a créée, on est toutes les trois co-directrices, on est toutes les trois professionnelles dans le secteur de l'humour.
Perrine Blondel, co-directrice de l'Académie d'humour.
Toujours en accompagnement, on n'a jamais été humoriste nous-mêmes, mais on a œuvré à plein d'endroits. Et on a voulu créer une formation qui réponde un peu aux problématiques, aux enjeux des artistes débutants. On propose une formation qui va à la fois avoir tout un pan artistique, donc écriture, jeu, mise en scène, mais aussi toute une partie gestion de carrière, justement comment être accompagné, comment être entouré, comment on écrit et si on écrit seul ou si on se fait accompagner. Donc on a créé du coup cette formation qui dure 1 an. L'idée, c'est d'être vraiment la dernière étape avant la professionnalisation.
Si c'est juste une phrase que je veux tirer, moi, j'aime bien faire des fusils de Tchekhov. Des callbacks, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, mais en gros, oui.
C'est une règle de théâtre.
Oui, bien sûr.
Si dans l'acte 1, il y a un fusil qui est présenté, il doit forcément être utilisé dans l'acte 2 ou 3.
En gros, ne pose jamais un élément si tu n'utilises pas derrière.
Ça me fait plaisir de t'apprendre.
Rien n'est gratuit.
Rien n'est gratuit.
C'est la loi de conservation des détails.
Oh, waouh, wow. Ça c'est stylé.
Voilà, merci.
Mais je suis une artiste accomplie, moi, tu crois quoi?
Aude Galliou, co-directrice de l'Académie d'Humour.
Il y a encore des personnes qui gravitent dans le métier, hein, qui pensent que le stand-up c'est de l'improvisation et que c'est pas écrit. Et que du coup, les personnes qui vont monter sur scène, comme Farid, Panayotis ou n'importe qui, c'est du seul en scène et c'est pas du stand-up parce que pour ces personnes, oui, on voit bien que c'est écrit et donc du coup, c'est pas du stand-up. Donc c'est pour ça que c'est très difficile et on est aux prémices aujourd'hui de se faire reconnaître en tant qu'art, en tant que discipline artistique.
Comment ça se construit une heure de spectacle là, comme le vôtre ?
Bah c'est long. Hein.
Amandine Lourdel, humoriste.
J'imagine que quand t'as plus de métiers, c'est moins long. J'imagine qu'après, tu sais, j'espère que si j'en fais un deuxième, ça va mettre moins de temps. Mais là, par exemple, j'ai vraiment l'impression que... Et encore, tu vois, hier soir, j'ai un peu galéré. Donc c'est un métier où dès que tu penses que t'es arrivé quelque part, il y a quelque chose qui dit non, t'emballes pas, t'es arrivé nulle part du tout en fait. Mais là, je commence quand même depuis quelques mois à me dire « Ok, là, je l'ai vraiment dans la peau maintenant. » Lui et moi, on fait corps, quoi. C'est lui qui me protège, en fait. Moi, je me dis, les gens ne viennent pas me voir moi, ils viennent voir mon spectacle. J'ai commencé le stand-up, c'était en mai, vraiment, 2021. Et j'ai eu mon spectacle en octobre 2021. Mais quand je relis aujourd'hui, il doit y avoir deux phrases en commun, je pense. Ça n'a plus rien à voir. C'était très littéraire, c'était très appliqué, c'était très verbeux. C'était plus une sorte de monologue ou avec des blagues, quoi. Plus qu'un spectacle de stand-up. Et je l'ai joué de ouf, parce qu'au début, je bossais avec un gars. Il m'envoyait à Lyon. J'ai fait mon spectacle 5 sur 7. Une fois 3 mois, une fois 2 mois. J'ai fait Avignon 2 fois. Je l'ai toujours joué, en fait. Je suis allé beaucoup en tournée dès le départ. J'ai toujours un peu joué à Paris. Par contre, j'ai oublié, tu vois, d'avoir des 7 minutes hyper efficaces, comme les autres, ils font en comédie club. Ils construisent comme ça, souvent. Moi, j'avais mon spectacle. Et donc, à force de le jouer, de le faire, de le changer et tout, je pense que là, il est peut-être arrivé à une sorte de forme définitive. Donc j'espère que les prochains, ce ne sera pas si long si j'en fais d'autres.
Surtout, faites-vous confiance sur votre élan de vous dire « moi, j'ai besoin d'aller me documenter ».
Cours d'écriture,
là,
d'autres
galions. J'ai envie d'étirer, donc j'ai envie d'écrire davantage sur un sujet. Donc je me mets à table ou avec d'autres en disant « l'objectif, c'est ça ». Ne vous forcez pas à être drôle quand vous allez développer un sujet, jusqu'à trouver le bon angle, la bonne illustration, la bonne image, le bon jeu de mots. Et autre chose, aborder tous les points de vue. Si par exemple, on décide d'écrire sur un verre qui est floqué, ça part peut-être du point de vue de la personne qui tient ce verre dans sa main pour la première fois, qui va avoir un jugement sur le fait que ce soit floqué, c'est ringard, c'est fait depuis les années 2000, au final c'est en plastique, il n'y a pas de consigne, je ne sais pas. Après on peut aller tirer dans quel contexte j'utilise un verre floqué pour faire de l'ASMR. se dire aussi au final quel est le point de vue du verre, donc personnifier l'objet. Aller au bout du sujet et de l'objet qu'on observe. Si on observe un pigeon, n'importe quoi, se mettre dans n'importe quelle situation du pigeon ou du rat, du pavé sur lequel il est en train de marcher, des pieds qu'il va croiser, de la branche sur laquelle il est, etc. Essayer de regarder à 360 le sujet qui est traité.
En quoi c'est important l'observation dans la construction de l'art comique sur scène ?
Ah, c'est très important. Là, c'est très important parce que quand même, c'est le sujet. C'est la vie. Moi, je ne suis pas intéressant. Mais tout ce qui est autour de moi est très intéressant. Déjà pour l'enfant. Après, on est sophistiqué. On dessine. On danse. On imite. Donc, de vraiment vouloir reproduire ce qu'on a vu, c'est un exercice très très important. Voilà une école pour l'artiste. Aller d'abord regarder dehors, comment ça se passe. Voilà Paris, voilà la gare du Nord, voilà ce monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Je l'ai vu, il m'a parlé, j'ai entendu. Mais pas seulement le contenu, mais aussi le rythme, le qu'est-ce qu'il faisait avec ses gestes, comment cet enfant a couru en poursuivant le pigeon. Et cette imitation, le fait qu'on puisse reproduire quelque chose, rejouer quelque chose en le respectant, sans commentaire, déjà en soi, c'est un acte artistique. Et de pouvoir capter les rythmes, voir. C'est... Dans la pédagogie de Jacques Lecoq, on voit mieux quand on participe. Il dit ne soyez pas touristes sur un banc, mais faites corps avec. Faites corps avec.
Quand j'étais plus jeune, et c'est vrai, j'amusais à table en imitant les fromages. J'étais jeune. Mais ça marchait tout le temps. J'aime le partager avec vous aussi. Pourquoi pas? De nouveau, hein, pour ceux qui ça leur intéresse, hein, même consigne, observez-les bien d'abord. Hein. Séparez-vous des autres, allez dans la cuisine. Hein, prenez d'abord, par exemple, un camembert. Mettez-vous devant. Faites-le. C'est possible. Laissez-le venir en vous. Faites corps avec lui. C'est possible. D'ailleurs, le camembert, il est facile pour commencer parce qu'on peut s'appuyer, se servir de son nom. Hein, son nom suggère son corps. Camembert, ça commence sec. Ca. Et puis ça ramollit. Camembert. Et puis il coule. Camembert. Maintenant, pour vous, on va essayer de le faire. Un bon camembert. En fait, ce genre de choses, il ne faut jamais hésiter, il faut aller jusqu'au bout. Vous constatez peut-être, cher public, que vous riez de plus en plus avec n'importe quoi.
Alexis Le Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Dans votre dernier spectacle, Le sens de la vie, vous racontez un moment que le quotidien vous sert à écrire. Vous rentrez un peu dans la méthode de l'écriture du stand-up.
C'est vrai. C'est une mécanique de l'esprit. Mais comme, je vais donner un exemple bidon, mais c'est le seul qui me vient en tête, mais comme un chapardeur, un voleur aurait l'œil alerte sur un portable qui dépasse, un sac à main mal tenu, des choses comme ça. Et ben nous, en fait, enfin dans mon cas en tout cas, je suis alerte par rapport à tout ce qui peut se passer. Mais maintenant, contrairement à il y a quelques années, je sais vite si c'est dans mon registre ou pas et si je garde ou pas. Et en fait, la difficulté, c'est de savoir dans quel camp on se situe, parce que l'humour, ça peut être de l'observation, du politique, ça peut être une critique sociale, ça peut être tout un tas de choses. Et si tu veux tout couvrir, t'arrêtes pas, en fait. Là, tu fatigues vraiment. Par contre, bon, bah, si tu es capable de te dire, bon, moi, là où je suis fort, c'est, par exemple, c'est le storytelling, c'est raconter des histoires qui me sont arrivées, puis de prendre la liberté d'en rajouter aussi. Ça restreint quand même le champ des possibles. Et en fait, nous, quand on fait de l'humour, c'est vrai qu'on a cette tendance un peu, qui est une déformation professionnelle, à pousser l'expérience jusqu'au bout, même quand elle est la plus malaisante possible, pour voir où est-ce qu'on va pouvoir y trouver une amorce pour une histoire, quoi, à raconter. Comme ça que je me suis retrouvé au Mexique, en prison, après avoir uriné dans la rue, un truc qui se passe très vite, je suis embarqué par les flics, machin, je passe devant un juge en pleine nuit, comparution immédiate et tout. Et à un moment donné, j'ai le choix de soit payer 200 dollars pour sortir immédiatement, soit faire 24 heures en cellule. Et là, je débute le stand-up. Je me dis, putain, je peux pas gâcher une histoire comme ça, quoi. Il me la faut. Donc, je choisis de ne pas payer les 200 dollars, que j'avais pas sur moi en plus. Et je passe 24 heures en prison, et c'est mon premier sketch marquant en espagnol, que j'ai ramené et joué ensuite à Montreux, par exemple, en français.
Nous, on utilise Waze pour aller à des endroits, la plupart du temps, on connaît déjà le chemin.
Merwan Ben Lazar.
Vous vous rendez compte, vous savez c'est quoi le bouton le plus utilisé sur Waze? Domicile. Ça vous amuse?
Humoriste.
On ne sait plus rentrer chez nous. Tu te rends compte, la moitié de la salle, là, tu leur enlèves leur iPhone, ils se disent, bon, ben, ce soir, on s'allonge là pour l'instant, et demain, à l'aube, on va aviser. C'est terrible ce qui se passe. J'ai vu un chiffre, on ne sait plus rentrer chez nous. Vous savez que 70% des SDF, c'est juste des gens qui ont perdu leur chargeur.
Il y a beaucoup de trucs qui sont nés sur scène, et au final... Le spectacle, en plus du texte qui est déjà écrit, est une compilation des meilleurs trucs que j'ai trouvés sur scène en jouant le spectacle. C'est comme ça que naissent beaucoup de digressions du spectacle. Notamment toute la partie sur mon classement de mes pédophiles préférés. Tu vois, ça c'est un truc qui m'est venu sur scène. Et voilà.
Comment c'est venu, comme ça?
Ouais, je sais plus, j'avais regardé une vidéo l'après-midi, je crois, sur un des trois. Et puis, donc je fais la blague, tu sais, les anses décartables, il faut les couper, c'est pour les pédophiles. Et après, je trouve la blague, Paris est une immense pêche au canard pour... Là, on faudra biper. Mais... et du coup, ça, c'est resté après. Et je sais plus, le jour d'après, je la refais. Et je dis, c'est même pas mon pédophile préféré. Et puis après, le jour d'après, je me dis, bah attends, faut développer le classement sur scène. Et ça marche moins. Du coup, le lendemain, je refais la même blague, mais je change un truc. Et ça marche mieux, etc. Donc ça se crée un peu sur scène aussi, quoi.
Ouais, puis c'est des blagues qui créent toujours de la tension. C'est-à-dire, vous dites, oh, je fais quand même pas un classement des pédophiles. Ah, si, quand même.
Il y a toujours ce balancement.
On va pas aller jusque-là. Ouais. Si, quand même.
Mais hier, on a fait long, mais j'ai un autre truc comme ça où je fais le classement des villes racistes. Je dis, on va pas faire non plus toutes les villes racistes, mais on va le faire. Et je dis, la liste des villes vraiment racistes. Et je dis, donc il y a Nice. Et après, je dis, voilà, fin des listes des villes vraiment racistes. Et tu vois, ça pareil, les gens au début, ils sont en mode assez chiant de faire un classement, quoi. Et je le sais, parce que c'est la fin du spectacle. Et t'as pas l'attention nécessaire pour suivre un classement des villes vraiment racistes. Et en fait, le fait qu'il y ait que Nice, c'est drôle. Et en plus, t'es content qu'il y ait que Nice, quoi. Comme ça, allez, on passe à un sketch, vraiment, quoi. Donc c'est drôle. Il y a ça aussi. En vrai, il faut être à l'écoute de soi-même, des fois, sur scène. Des fois, pour moi, c'est long. Et en fait, c'est long aussi pour les gens. Donc, je le sais et je le maîtrise. Des fois, tu parles longtemps à quelqu'un et tu sens que tu le saoules. Et sur scène, c'est pareil pour nous.
Essayez de vous concentrer sur ce que vous faites, s'il vous plaît. On échauffe le visage.
Perrine Blondel, co-directrice de l'Académie d'humour.
On pense à tous les résonateurs. L'entrée en plateau, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est là où on vous découvre. Donc prendre conscience de à quel rythme on marche, à quel rythme on parle, à quel rythme on se déplace, qu'est-ce que ça raconte. Et donc juste faire une entrée, dire une phrase. Ça peut être une phrase qui semble anecdotique, ça peut être quelque chose de très explicite, de présentation, de qui je suis, de quoi je viens vous parler. Faites un choix et puis vous verrez bien, vous adapterez, vous modulerez, vous changerez en fonction de comment vous ressentez les choses. Quand vous voulez. Ouais
ouais. La semaine dernière, on a fêté la 5e tentative de suicide de ma mère. Merci.
Allez.
Bonjour. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. Bon, il n'y a aucune réaction, ça m'inquiète parce qu'en fait j'ai 24 ans.
Bonjour, je m'appelle Elodie, on va passer un super moment ensemble. La prochaine fois. Je m'appelle Mado et moi je pense qu'on a l'entourage qu'on mérite dans la vie. Et je dis ça parce que ma meilleure pote aussi sur Patrick.
Enchanté, Denis, 43 ans, pas d'enfant, pas de travail. Je suis à une coupulée de faire entrer l'accusé.
Merci, ça va, vous allez bien? Okay. Moi, mon dessin préféré, c'est bien, parce que tu peux lécher l'opercule avant de manger. Merci, vous avez été géniaux. Merci.
Ok, est-ce que quelqu'un veut repasser? Ok. Alors venez.
Tout le monde.
Comment vous êtes senti?
On a assisté là à un cours où il s'agissait surtout pour eux de faire des entrées.
C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je viens du théâtre au départ et je pense que c'est important de considérer que dès qu'il y a un corps sur un plateau, il y a spectacle et que c'est pas anodin la façon dont on entre sur scène. Et encore une fois, l'identité artistique, quand elle est bien maîtrisée et connue par l'artiste, on doit l'avoir à la première seconde. Le non-verbal, l'entrée, toutes ces petites choses qui font qu'on n'est pas accroché à son texte. Ce n'est pas que le texte qui crée l'humour, qui crée le décalage, qui crée la surprise. Il y a plein d'autres choses et c'est ça qui fait qu'un spectacle est riche. Un spectacle super bien écrit, ça peut faire un bon podcast, ça peut faire un bon livre. Mais pourquoi c'est un spectacle? Avant tout parce qu'il y a un être humain sur un plateau.
Par contre, il y a une chose, Christine ne me refait plus jamais ça ou alors je donne ma démission.
Ça, j'ai fait.
Tu as regardé Jean Calin? Tu lui parles, ton texte s'adresse à lui et tu le regardes, c'est absurde.
C'est vrai, c'est surréaliste.
T'as pas besoin de le regarder, Christine, hein? On n'est pas au boulevard. Attention, j'adore, hein, le boulevard, j'aime, j'adore. Mais en l'occurrence, on est au théâtre. Alors je voudrais, Christine, que tu gardes ton regard pour vectorier ton texte vers l'autre qui est là, qui est assis et qui t'écoute.
Vers le public, tu veux que je regarde le public?
Aïe, oui, aïe, 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 j'aime pas ce mot. Je le trouve un petit peu réducteur. Hein? Je préfère qu'on parle d'ensemble de pensées réunies devant une scène de théâtre. Bien, on enchaîne, tu reprends à la fin de ton ensemble de mots.
À la fin de ma réplique?
Oui.
Ma première expérience significative, c'était ma première expérience sur scène en stand-up.
Lou Trotignon, humoriste.
Je suis allée dans un petit comédie club et j'ai fait mon premier sketch. Et c'est très drôle parce que donc, je suis une personne trans. Je suis assignée femme à la naissance et je transitionne vers la masculinité. Mais quand j'ai commencé le stand-up, l'humour, je me pensais encore comme une meuf hétéro. Donc ma première blague, c'était « Je comprends pas pourquoi tout le monde me prend pour une lesbienne alors que pas du tout. » Et en fait, si. Et du coup, j'ai dû changer absolument tous mes sketchs après cette première scène. Donc, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Parce que moi, je peux pas arriver sur scène sans expliquer que je suis trans parce que j'ai pas l'air d'un homme normal, j'ai pas l'air d'une meuf normale. Donc, il faut que j'explique. Et c'est un peu tous les premiers sketchs mis bout à bout. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et puis après, on cherche un peu un fil rouge. Et puis là, on organise le spectacle. On essaie de trouver une structure qui fait sens. Mais j'ai hâte d'écrire aussi le second, où pour le coup, je vais partir plutôt d'une structure dont j'ai l'idée et rajouter des blagues. Donc pour dire qu'il y a plein de manières de l'écrire, je crois que le truc principal à retenir, c'est que ça s'écrit avec le public. C'est pas comme le théâtre, genre on peut pas... Tu peux écrire chez toi et après tu testes, mais tu testes. Et ça évolue constamment, parce que c'est selon les rires, selon la réaction des gens, qu'on adapte le spectacle. Et ça, moi, je trouve ça passionnant. Enfin, j'imagine mon spectacle comme de la musique, quoi. Et du coup, le début, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit très fort, qu'il y ait déjà le refrain un peu qui commence et tout, et qu'après on soit dans la mélodie, qu'il y a un moment où ça redescend, et puis que le refrain revienne, et que, enfin, parce qu'une musique tout le temps sur le même rythme, même si le rythme est super, il y a un moment où t'as envie d'arrêter, quoi. Enfin, donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, les silences, les intonations. Des fois, t'attends 2 secondes de plus, la blague est meilleure. Par exemple, j'ai une blague où je dis, on me demande souvent si je vais faire une transition complète, comme si j'étais une galette bretonne. Voilà, ça c'est drôle parce que c'est une comparaison. Enfin, vous n'avez pas rigolé, mais c'est très drôle. Mais dans le spectacle, c'est drôle. Mais il y a aussi des blagues qui ne sont pas écrites comme des comparaisons, qui n'ont pas l'air de punch, donc de punchline, c'est-à-dire de blagues écrites. Mais en fait, le rythme et l'intention qui est donnée fait que c'est drôle. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a énormément d'outils pour que quelque chose devienne drôle. Et le rythme, pour moi, c'est un des trucs principaux. Je travaille beaucoup dessus, notamment parce que j'ai remarqué qu'avec mes sujets, si j'arrivais et que j'étais ancrée et que je mettais des silences, ça sous-entendait que j'assumais qui je suis, et c'est hyper important. Et du coup, j'ai appris à être ancrée, à peu bouger, à bouger quand c'est nécessaire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est vraiment moi comment je construis, pour que les gens ils sortent, ils soient là, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop bien. C'est ça que je voulais créer, quoi, en termes de rythme.
Comment vous composez avec le public et les morceaux de spectacle que vous glissez dedans? C'est vraiment de la composition en direct?
C'est de la composition en direct. Après, je sais que j'ai des moments où j'ai le droit de m'arrêter plus longtemps parce que le sketch d'après va crescendo. Il y a des sketchs ou des storytelling où je sais qu'il ne faut pas que je casse la dynamique parce que le sketch a une rythmique. Donc, c'est prédéfini. Je sais exactement à quel moment je peux m'arrêter ou pas. Parce que c'est le rire, c'est du rythme, c'est de la musique.
Vous le vivez comme ça, ouais, comme une musique?
Oui, il y a un spectacle sur ça. Il y a, comment il s'appelle? Il s'appelle Yosuben. Je sais pas si vous avez.
On l'a interviewé.
Ouais. Il fait un truc qui s'appelle la mécanique du rire. Et ouais, Yosuben, il te prouve que c'est de la musique et c'est des mathématiques en fait. Hein. Il te dit, ben là, je vais tomber, puis glisser et rattraper le plateau comme ça. Et vous allez rire à ce moment-là, ce moment-là, ce moment-là. Il y a pas de surprise. Juste, je vous le dis. Et il le fait. Et il enlève, donc en gros, il enlève toute la surprise qui, dans nos têtes, fait partie intégrante et en vrai, fait partie intégrante de pas mal de blagues, mais elle est, dans nos têtes, elle est souvent nécessaire au rire, et lui, il te prouve que non. Et en vrai, c'est le truc de, en vrai, on le sait dans la vraie vie, hein. Il y a combien de fois où tu scrolls sur Instagram ou TikTok et tu tombes sur un truc qui t'a fait marrer, et du coup, tu le regardes et tu rigoles une deuxième fois. Et ça prouve bien que la première fois, la surprise, elle a participé au rire, mais en tout cas, sans la surprise, c'est toujours aussi rigolo.
Ayons maintenant établi le temps de réaction auquel vous vous attendez. On peut aussi obtenir des rires en surprenant
le spectateur, l'observateur, en jouant avec le temps de réaction, en réagissant trop vite ou trop lent par rapport à votre attente. Trop vite d'abord. Il y en a très peu qui se déplacent avec ce sens de disponibilité totale. Plus courant, hélas, et plus efficace pour l'effet comique, d'allonger, d'étirer le temps de réaction pour apparaître plus stupide.
Puis bon, on va pas se mentir, les gens qui rigolent, c'est... c'est addictif de ouf, quoi. C'est l'amour que ça te donne. Mais moi, ça a comblé des trous chez moi énormes, quoi. Vraiment, je pense qu'avant de faire ce métier, je pense que j'étais vraiment dépendante affective. Je pense que je le suis plus du tout. Maintenant, je suis dépendante affective avec le public. Mon Dieu, c'est horrible. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, non? Tu sais, genre quand t'es avec des gens et que t'arrives à faire une vanne et que les gens rigolent, t'es hyper fier de toi, c'est hyper valorisant. Et pareil, tu sais, dans l'autre sens, quand tu dis un truc avec des gens et que personne réagit, là t'as une espèce de petite mort qui arrive à l'intérieur comme ça. Bah ouais, c'est important quand même.
Ça, vous expérimentez ça à grande échelle tout le temps devant ouais. Le public, quoi.
Après, faut être préparé aussi, tu vois. Moi, Pierre Thévenoud, une fois, c'est un humoriste, il m'avait dit si t'as peur de bider, arrête maintenant par contre. Il m'avait dit, parce que tu vas bider encore, encore et encore. Il m'a dit, bon, faut pas bider tout le temps, sinon faut vraiment changer de métier. Mais il m'a dit, c'est normal, en fait. Ça fait partie du truc. Après, tu te détaches un peu. Ouais.
C'est comment, de l'intérieur, l'effet d'un bide?
C'est comme une montée dans l'autre sens. C'est une descente, en fait. Tu sens quand t'as une espèce de montée de joie ou de désir ou un truc comme ça, bah, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Ça tombe dedans toi. Il y a quelque chose qui tombe à l'intérieur de toi. Et du coup... t'as l'impression qu'il y a une espèce de vide intersidéral dans ta poitrine, dans ton ventre et ton plexus solaire, et tu te sens très très seul. Et puis souvent tu te dissocies un peu, tu te regardes, tu sais, comme un travelling compensé vers l'arrière de toi un peu, genre tu te regardes un peu. Ouais, c'est pas facile. Après, ce qui est cool, c'est que normalement, c'est rare que tu bides pendant une heure de spectacle.
Avignon, j'avais fait Avignon alors que j'avais très peu d'expérience et ça m'est arrivé de faire une heure et rien, quoi. Un tunnel d'une heure.
Tristan Lucas, humoriste.
Mais bah, tu vas au bout, quoi. Et puis tu vois, là au final, c'est devenu mon métier alors que c'était pas un objectif. Et puis même après un four d'une heure, tu continues de respirer, d'avoir des amis. Tes amis ne te renient pas. Tu vois, la vie, en fait, elle continue, quoi. Et donc, tu te dis, ouais, bah, tiens, pourquoi j'ai fait un four, quoi. Bah, juste analyse, et puis tu sais que ça t'arrive pas. Et tu essaies de faire un four que de 50 minutes la fois d'après, et puis 45 minutes. Et puis, voilà, tu diminues le temps de four, le temps de cuisson. Et puis, c'est vraiment ça, le stand-up, c'est que tu vas pas arrêter de te casser la gueule, mais tu sais mieux te casser la gueule. Ou quand tu te casses la gueule, ça fait rire les gens, tu vois. Et en fait... dès que tu testes un texte et que c'est mieux que la fois d'avant, c'est déjà que tu es un peu en train de bien travailler, tu vois.
Non, mais parce qu'au départ, moi, quand j'ai commencé à monter sur scène, je voulais que toutes les transitions soient bien travaillées et tout. Et puis après, je suis allé voir mes potes humoristes en spectacle. Ça, ils passent d'un sujet à un autre, ça n'a ni queue ni tête, on ne sait même plus de quoi ils parlent. Bah, vous êtes content quand même. Donc je me suis dit, bah, Tristan, fais-toi plaisir, quoi. Fais du sans transition. Allez, on s'accroche, le mot qui. Devinette. Comment appelle-t-on un oiseau... Non, je l'ai loupé. Devinette, sans transition, devinette. Comment appelle-t-on un enfant qui tue son père et sa mère? Un orphelin. Question, est-ce qu'un orphelin qui se baigne dans la mer morte, c'est un nostalgique? Merci. Sinon, vous avez vu le prix des loyers Ça fait mal au cul, hein. Et je me demandais aussi, pendant un tremblement de terre, est-ce qu'une personne atteinte de la maladie de Parkinson se stabilise, tu vois? Et donc, il y en a qui se branlent ou pas?
L'école Jacques Lecoq, peut-être un peu rapidement, c'était quoi les préceptes au niveau du burlesque et du comique?
Mais l'école Jacques Lecoq, c'est une école de création. Les élèves découvrent cherchent et découvrent leur théâtre à eux. Donc c'est pas un écho d'acteur nécessairement, mais tout passe par le jeu. Donc aucun volet théorique. Et le burlesque arrive à la fin. Après une année de recherche sur l'observation de la vie telle qu'elle est et comment transposer au théâtre, et dans un deuxième temps, une deuxième année, les grands territoires dramatiques, c'est-à-dire les grands sentiments, les mélodrames, la comédie humaine, la comédie masquée, sur l'axe vertical, le mystère, la tragédie, le bouffon. Et ce n'est qu'à la fin qu'on ouvre le quatrième mur et que l'élève se présente à un public pour leur faire rire. C'est le plus difficile. Donc l'élève est chargé d'un espace tragique, chargé de ce que c'est les grands sentiments, chargé de ce que c'est l'hypocrisie et la charlatanerie de la vie sociale, quelque part. Donc il a assez de matière pour faire ce pas, qui est quand même, on est sur un fil avec le comique, parce que c'est dur, c'est dangereux. S'il ne rit pas, on prend une sacrée claque. Ils sont jeunes, il leur faut une base, il leur faut un peu de technique. Certains y arrivent tout de suite. Mais comment garder la porte ouverte?
J'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens ici, bah, je me sens de la bonne manière, mais en danger, enfin, même au niveau de mon corps et tout, il se passe un truc hyper fort. Du coup, je me suis fait une tendinite au pied droit en faisant le saut à ce moment-là. Et du coup, je sais pas si du coup c'est un truc propre à moi.
Conservatoire national supérieur d'art dramatique, cours de clown d'Aurélien Ploquin.
Sentir comme si dès que je rentrais sur le plateau, il y avait tout mon corps qui se passait un truc.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui. C'est normal. C'est normal, non? Parce qu'on prend des risques ici. On donne un peu de soi à chaque fois. On se cherche. On cherche.
Alors bonjour, je m'appelle Laurent Magnan, okay. J'ai 23 ans et je suis en première année au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Mais alors moi, je remarque qu'en fait, quand je monte sur un plateau, même quand c'est pas en improvisation, j'ai tout le temps envie de vomir. Enfin, c'est vraiment, c'est vrai. J'ai tout le temps envie de vomir. Il y a toujours ce truc de rapport, un peu de vie ou de mort, qui peut choquer des gens. Mais moi, en tout cas, je le vis comme ça. Mais même pour des petits trucs, hein, même pour me présenter ou quoi, c'est toujours quelque chose. Mais en même temps, ce qui peut du coup paraître totalement contradictoire, bah, ces moments-là, ils me font me sentir plus vivant que jamais et ils me font oublier toute ma tête, et ils me font sentir tout l'amour du monde, bizarrement, alors que je suis la personne la plus stressée du monde, en fait. Donc j'ai peur, j'ai envie de mourir avant d'y aller, mais quand j'y suis, j'ai plus envie de partir, du moins quand ça marche, hein, quand il y a des moments où ça marche pas, j'ai envie de partir, mais ces moments-là où tu te laisses porter, ça marche, et enfin même le terme ça marche, il est nul en soi, juste qu'il se passe quelque chose, c'est des très beaux moments, même si ça fait trop peur.
Ce que je disais, après une journée de clown, si vous n'êtes pas épuisé, c'est pas normal. Parce que c'est très physique et vous donnez beaucoup d'émotions. Donc on est lessivé. Si vous n'êtes pas lessivé à la fin, c'est que quelque part, voilà.
Ça va être mal.
Ah mais déjà, en une demi-journée, on est lessivé.
Oui, c'est sûr. Et c'est que le début, on n'a pas encore commencé le clown. Le clown, on commence en janvier. Oui. On fera une classe ouverte, parce que c'est très précieux, s'il vous plaît. C'est très précieux d'avoir des moments en public dans ce travail-là pour voir c'est quoi qui fait rire chez moi. Donc on va quand même avoir un temps en janvier-février où on prendra un temps de présentation, d'accord ?
Aurélien Ploquin, professeur de clown.
L'apprentissage du travail du clown, celui des mécanismes du rire, c'est tout un processus. Et par conséquent, ici au conservatoire, je commence par déjà retrouver un peu les bases de l'improvisation pour ensuite aller vers les notions de mécanisme du rire, parce qu'il y a des techniques du rire, qu'on retrouve beaucoup dans le burlesque, dans le jeu burlesque. Et une fois qu'on a un peu quelques notions de comment on fait rire, quels sont les mécanismes, quelles sont les règles de base, on peut ensuite plonger dans quelque chose qui est plus propre à soi, qui est le travail du clown, du jeu clownesque, où là, vraiment, on va explorer un peu quel est notre ridicule propre, et on travaille... C'est le clown, c'est soi augmenté, on travaille vraiment sur soi, sur ses failles, sur ses faiblesses, sur ses qualités. Donc là, on est beaucoup plus confronté, c'est confrontant, et donc on l'aborde avec des acquis de technique du rire qui permettent d'aller dans ce travail un peu plus en profondeur, qui est un peu un travail abyssal, avec plus de sérénité. Parce que jouer tout seul, c'est une chose, mais jouer avec un partenaire, on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc la chose, c'est de trouver qu'est-ce qu'elle a entre nous, qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est comme un sculpteur qui a un bloc de granit et qui va, il va sculpter le bloc et il va découvrir ce qu'il va y avoir à sculpter. Bah, c'est un peu pareil pour une improvisation à deux, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc prendre le temps de laisser venir organiquement quelque chose avant de le jouer, notamment avec la parole aussi, de l'expliquer, parce que la parole est très aussi cérébrale. On explique ce qu'on fait, on explique, on justifie. Le corps, lui, il vit les états, il vit les émotions. Naturellement, le corps vient remplacer le psychologique.
OK. Donc, je réexplique. Qui est-ce qui peut venir, qui a déjà fait la semaine dernière? Par exemple, Arthur. Où vous rentrez. Et on commence neutre. On a chacun un neutre, il faut le trouver. Et ensuite, on a du texte, il y a le comédien A et le comédien B. Le comédien A va dire au comédien B, je t'aime profondément. Lui, il reçoit. Il prend le temps de recevoir, il est touché et il renvoie public. Et à son tour, il va charger. Il va se charger. Il va se charger pour me renvoyer la balle.
Je t'aime profondément.
Donc moi, je reçois. Donc là, le jeu, il est là, d'accord? Une fois que tu lances la phrase, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Le jeu, c'est les états. Et après, qu'est-ce que tu en fais? Où est-ce que tu peux l'emmener? Donc l'idée, c'est un crescendo. Qu'on aille plus loin à chaque fois. Tu ne peux pas lui redire la deuxième fois de la même manière. Il faut que ça... Et tu fais monter jusqu'à ce que la phrase doit se dire. Tu ne peux plus la retenir. D'accord ? Je t'aime profondément. Et à chaque fois, c'est focus. Tu t'arrêtes, point, focus partenaire. Ping pong.
Je t'aime profondément.
Et là, après, tu reçois, tu développes. Et à ton tour, tu vas devoir monter d'un cran. Tu vois ? Et tu cherches physiquement qu'est-ce qui arrive. Et après, c'est plus lui donner la balle, c'est plus important. Ce qui compte après, c'est comment vous vous amusez avec ça et surtout vous amusez ici. Quand il y a des rires, ha ha ha, c'est vous jouez ici. Tu vois ? Si tu commences à faire un truc et que ça plaît, tu continues. Bon, je sais pas, on va voir ce qui va arriver. Ça marche, c'est clair ? Mais certains d'entre vous l'ont déjà fait de toute façon et savent le faire. Qui est-ce qui l'a fait la dernière fois ? Vous voulez nous montrer ? Bien, merci Laurent.
Mais avec qui ?
Et à Noir. Donc là, le clown, il est sans filet. Il n'y a rien, c'est que du jeu, c'est que des états. C'est soit son imaginaire qu'on met en scène, on est son propre auteur. Donc l'enjeu est, en plus, il y a l'approbation du public, quelque part. Ce qu'on va chercher dans le travail du clown en particulier, c'est à enlever les masques. C'est petit à petit à se découvrir soi-même. C'est aussi pour ça que c'est très précieux dans leur parcours de comédien, c'est que on enlève l'ego. Enfin, on cherche en tout cas à aller de plus en plus vers le noyau dur, vers l'essence de notre être. Et le clown, il fait ce chemin-là. C'est l'instant présent, l'instinct. Donc on est soi-même, on essaie d'aller de plus en plus à soi-même. Bah oui, mais ça c'est aussi le très primaire, c'est les énergies très primaires, c'est les énergies enfantines. Pourquoi les enfants, ils sont très spontanés, ils jouent dans la cour d'école, ils vont jouer à des jeux, ils vont être très cruels, très enthousiastes. Enfin, ils sont grands, ils sont excessifs. Et au fil de notre croissance, on grandit, puis on met des masques, on se civilise. C'est nécessaire, c'est indispensable. On se socialise, on fait comme papa, maman a dit, on fait comme la société a dit. Mais du coup, on est conforme à tout ça. Et le travail qu'on fait dans ce chemin du clown, c'est qu'on va les enlever, ces masques, pour sur scène exister pleinement. OK. Allez, c'est parti. Soyez détendus. Oui, comme ça, quelque part. Alors, c'est quoi le neutre ? Neutre. Comment c'est neutre ? Et tu regardes tout le monde, tranquille. Voilà, tout va bien. Trouve ton neutre, tranquille. Le neutre, c'est, ça peut monter, ça peut descendre, c'est entre les deux. Et c'est bien. bien, c'est ça. Détends-toi comme ça, très bien. Tu peux mets-toi, si ça te fait du bien de te marrer, tu vois, habite ça. C'est ça qui est là. Prends-le pour l'habiter avec en le dégustant.
Je t'aime profondément.
Ah, vas-y.
De faire rire, c'est un acte de conscience. De faire rire sans le vouloir, ça c'est le clown. Il est venu pour montrer comment il admire les dauphins. Et donc il imite dauphin. Et c'est de la mesure qu'il rate ça que nous on rit. C'est dans sa naïveté. Ce qui n'est pas du tout le but du comique de stand-up, qui essaye de rester au même niveau ou un peu au-dessus de son public, qui est un peu supérieur. Le comique du clown, c'est un peu Bourvil, celui qui a un retard de compréhension. Il est touchant, ou il touche à quelque chose que nous reconnaissons de nous-mêmes. Nous nous sentons tous un tout petit peu à côté de la plaque.
Stage d'improvisation de Jean-François Civadier. Laboratoire d'Aubervilliers.
Mes amis Romains, il en est fait. César est mort.
César est mort, tu dis?
Oui, César est mort. De ma main, je l'ai assassiné avec plusieurs de mes collègues. À coups de couteau, au pied même de la statue de Pompée.
Oui, oui.
Quoi ? Assassiné ? Et tu te permets, toi, Brutus de nécrophilie, de venir devant nous revendiquer sa mort ?
Tout à fait, je viens ici vous proposer un dilemme qui sera pour vous très très difficile.
Eh bien, parle !
Je me lance.
C'est un stage sur un principe de travail que j'ai élaboré il y a quelques années, en fait, hein, sans l'avoir vraiment prémédité, sur un travail avec les acteurs qui consiste à jouer en même temps qu'écrire, en même temps que mettre en scène. Voilà. C'est-à-dire que de demander à chaque acteur d'être l'auteur de son propre texte et le metteur en scène aussi de son propre texte et de jouer en même temps tout ça sans concertation, comme un peu des musiciens de jazz qui se connaissent pas, qui se rencontrent par la musique en improvisant sans aucune concertation, sans préparation d'une écriture.
Boa, quelle est donc cette mine si sombre que l'on vous voit, vos deux yeux se rassemblent?
Et à chaque fois, c'est très excitant et très nourrissant parce que les gens s'amusent énormément. C'est assez vertigineux, c'est très difficile, mais c'est très excitant et très ludique. Tout à coup, on prend la parole et on imagine qu'on est dans une pièce de Shakespeare qu'on invente au fur et à mesure. Toutes les propositions doivent être acceptées immédiatement.
Ma sœur Léonore, te voilà enfin. J'ai une triste nouvelle à te dire. Je crois avoir été empoisonnée.
Que dis-tu?
Bah oui.
Ma sœur, comment peux-tu dire cela maintenant? Mais comment le ressens-tu?
Je soupçonne Guillaume de tout.
Regarde, si tu... c'est déjà plus grave de dire j'ai été empoisonnée. Tu vois? Je vais te dire, j'ai été empoisonné, enfin de vraiment lui lancer le mot à la figure, ok? Et Élise, il faut réagir tout de suite comme tu as fait, mais c'est pas. Ah bon, mais tu n'es pas à lui prendre? C'est vraiment, tu vois, empoisonné, tu vois?
C'est pas les
sorties. Tu vois, ouais, peut-être c'est au ciel et.
Ce qui est très beau, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer quelque chose, mais on est constamment en jeu avec l'autre, avec tout ce qui est à l'extérieur de nous, c'est-à-dire le partenaire, l'espace, voilà, l'auteur qu'on est soi-même. Et au bout d'un moment, il y a un scénario qui commence à s'écrire.
Benjamin d'Italie, avant de partir, promets-moi que tu ne me sacrifieras pas et que tu feras tout pour me sauver, je t'en supplie. Ne me laisse pas avec ces deux affreux, le roi Guillaume II et ma mère, l'affreuse Marguerite numéro 1.
Tout le principe de ce travail, c'est de chasser l'intellect et de faire parler le corps. On s'aperçoit que quand le corps se lance comme au-dessus du vide dans une énergie de parole, au bout d'un moment, il y a une inspiration tout à fait naturelle, respiratoire, organique qui arrive et qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus imaginative que l'intellect.
Antoine, que faire ? Ma cousine m'annonce de nouvelles nouvelles.
Il dit toujours que prendre la parole, c'est agir hein, sur un plateau. Et donc là, le fait de pouvoir simplement avec un mot, un état, transformer l'équilibre du plateau, c'est assez vertigineux. Et la chose aussi qui rend les gens heureux, je pense aussi, c'est le fait de ne pas penser à eux, à leurs problèmes d'acteurs en fait. Plus on pense à l'autre, à mettre en scène l'autre, à tout ce qui est à l'extérieur de soi, plus on se débarrasse de nos problèmes d'acteur, qu'est-ce que je joue, où est-ce que je mets mes mains, comment je me tiens, etc. Et c'est extrêmement libératoire. Quoi.
Bon roi, je suis votre frère.
Ciel, mon frère, c'est toi, Jacques d'Autriche, te voilà enfin de retour. Toi, Jacques d'Autriche, que j'ai perdu il y a longtemps.
Oui, c'est moi, Jacques, ton frère. C'est moi qui viens te demander de l'aide, car mon pays, aujourd'hui, est attaqué.
Tu viens me demander de l'aide ? Oh, toi, mon frère ? Ce que tu mérites, c'est bien plus que de l'aide. Tu n'oublies pas que tu es mon frère aîné. Cette couronne, je l'ai récupérée, mais elle te revient de droit.
Ok. Alors, regarde, quand il a dit « je suis ton frère », bah, vraiment comme dans La Guerre des Étoiles, hein, je suis ton père, etc. C'est pas parce qu'il s'adresse à Louis que vous-même pouvez pas dire son frère, enfin, ok, et plonger dans le scoop, parce que c'est peut-être ça qui va vous donner un rôle, vous voyez. Et juste regarde, Louis t'a fait un peu, ah ouais, tu es mon frère, ah ouais, d'accord, mais c'est toi qui as le pouvoir de que ce soit encore plus énorme. Mon frère, tu es mon frère. Enfin, tu vois que ce soit encore plus énorme que ça. C'est pas seulement une information, c'est un coup de théâtre qui pourrait te faire tomber par terre, quoi. Parce que de toute façon, comme vous savez pas du tout ce que vous allez raconter, il faut plonger, mais plonger vraiment, sauter dans le grand bain tout de suite, quoi. Et de manière absolument radicale.
Vous leur dites souvent, ouais, il faut plonger.
Pour pas
il y a ce geste-là, quoi.
Ouais. Bah, c'est difficile, mais il faut plonger. La chose aussi qui est très drôle, c'est que je leur dis toujours de ne pas du tout douter, d'être absolument sûr d'eux, même quand ils ne savent plus du tout où ils habitent, ce qui va se passer, quand ils sont complètement largués, d'assumer absolument ce qu'ils font, de ne pas montrer leurs doutes.
Toi, Richard le 17e de ta lignée, que fais-tu là ? Tu crois pouvoir nous posséder, nous, toutes ces femmes ?
Ok, attends, regarde, au revoir. Que fais-tu
là ? Qu'est-ce
que j'ai avec le sexe ? Non.
De toute façon, il y a au moins deux sentiments, à mon avis, qui sont la base de tout ce que peut ressentir un comédien sur le plateau, c'est le plaisir et la peur. C'est-à-dire, on rentre sur le plateau, on a peur, trois secondes après, on a énormément de plaisir, une minute après, on est terrifié. De ces deux émotions-là découlent, à mon avis, toutes les autres émotions. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut les mettre partout.
Nous revenons du front avec mon frère, Auguste d'Arsenal.
Mais c'est marrant parce que cette idée de l'incarnation du personnage aussi beaucoup à cause du cinéma et de la télévision, mais c'est encore dans l'imaginaire collectif. Enfin, le truc de jouer un personnage, c'est quand même... même dans les cours, il y a beaucoup de gens encore qui pensent comme ça, alors que ça fait longtemps qu'on a dépassé la question. De toute façon, c'est beaucoup plus simple pour l'acteur de penser à des choses extérieures à lui plutôt que de chercher à l'intérieur de lui, où, comme dit Novarina, il n'y a rien. À l'intérieur de l'acteur, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est terrifiant quand on entend dans certains cours d'art dramatique, on dit à des jeunes acteurs « va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi, etc. » Pense à ta grand-mère qui est morte, tu vas trouver une émotion, tout ça, c'est des assassins, ces professeurs d'art dramatique.
Mon cheval, puis le bateau pour venir jusqu'à vous. Si je prends ce risque aujourd'hui de venir, c'est pour vous annoncer une nouvelle qui nous vient tout droit d'Angleterre.
Attention.
Notre mère, la reine Marguerite, est morte.
Chien !
Elle est morte !
Elle est morte !
n'y a aucun personnage de Shakespeare qu'on puisse jouer totalement d'une manière tragique. Je sais pas, pour moi, jouer le roi Lear comme une figure tragique, désespérée du début à la fin, c'est un non-sens total par rapport à Shakespeare. Shakespeare, il prend bien le soin, il fait très attention à ce qu'on puisse rire aussi de la figure pour justement aller encore peut-être plus loin dans la tragédie, mais c'est très important et je pense que c'est ça de tous les personnages de théâtre. Alors évidemment, là, dans ces impros, c'est totalement flagrant. Mais je dis souvent que les jeunes comédiens, ils ont vraiment trouvé quelque chose quand ils ont trouvé leur clown, leur propre clown. Ça ne veut pas dire faire un travail de clown forcément avec un nez rouge, hein, mais leur façon de rire d'eux-mêmes et de rire de ce qu'ils font sur le plateau, enfin, de nous donner la possibilité de rire de ce qu'ils font.
Il y a des gens qui ne sont pas drôles. Mais globalement, on a tous un potentiel ridicule. Mais ça nécessite de s'assumer, ça nécessite d'enlever les masques. Ça nécessite... Si vous voulez, c'est vrai, la discipline du clown, sa particularité, c'est que quand on va dans ce chemin-là, en général, on fait rire. C'est très difficile de ne pas faire rire quand on accepte d'y aller. La difficulté, c'est d'y aller, c'est de prendre le chemin. Et c'est fascinant de voir que des gens qui sont terrorisés en venant, en arrivant, des gens qui disent « moi, j'ai peur des clowns ». J'ai des fois des élèves qui arrivent et qui me disent « moi, j'ai juste peur des clowns. S'il y en a qui a un nez rouge, je sors ». Et puis, et bon an, mal an, ils sont là, ils restent dans l'atelier. Et puis, à la fin, c'est les plus drôles de l'atelier. J'ai déjà eu ça. Et c'est sincèrement la plus drôle.
Merci à Aurélien Ploquin et aux élèves du cours de clown du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, à Joss Houben, René-Marc Gage, Philippe Davila et les élèves de l'École de l'Humour et des Arts Scéniques, à Lou Trottignon, Aude Galliou et Perrine Blondel et les élèves de l'Académie d'Humour, Amandine Lourdel, Merwan Ben-Lazare, Grégoire Lagrange, Alexis Le Rossignol, Tristan Lucas, Jean-François Civadier, et les comédiens de son stage d'improvisation. Prise de son, Florent Bujon, Alexandre Dang et Anthony Thomasson. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Anne-Lise Signoret. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Faire rire sur scène, épisode 3, T'as fait l'école du rire, un documentaire de Romain de Becdevière et Anne de Pelchin. Prochain épisode, Rire dans le chaos. Retrouvez l'émission sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.